Actu SF, les podcasts.
L'auteur du cycle de Sif avec le premier tome qui est paru en début d'année là, qui s'appelle L'Enfant de Poussière, et le tome 2 qui vient tout juste d'arriver dans les bacs, si j'ose dire. Ouais, ça ira. Ou sinon, tu mets sur là. Ouais. Et qui s'appelle La Peste et la Vigne, et qui poursuit les aventures de Sif. Je laisse la parole à Patrick, qui va nous lire un passage de son ouvrage. T'as perdu le pied ?
Je sais pas. Ouais, si, ça peut être cool en fait. Parce qu'il est pas très maniable. Yes. C'est intéressant, hein, ouais. Mais avant, un concert de... Ouais, c'est cool. Alors du coup, je savais pas trop quoi vous lire sans spoiler ou sans que ça fasse, que ce soit incompréhensible, parce que c'est quand même relativement gros. Donc en gros, si on n'a pas vaguement suivi, je pense, on va pas trop forcément comprendre. Du coup, je me suis dit que je vais vous lire le début. La solution de facilité. Du coup, je vous donne pas plus de contexte que celui-ci. On est au milieu de l'an 621. C'est l'été. Et c'est la lune tranquille. Nous étions couchés dans les herbes folles qui poussent sur la colline du verger. Et de là, nous voyons tout. L'air était pesant, presque immobile, rempli du bourdon estival des insectes. Autour, il y avait le parfum mêlé des graminées et l'odeur douceâtre des pommes qui mûrissent. Suspendus aux branches chargées de fruits, des charmes d'osselets gravés teintaient mélodieusement pour éloigner les oiseaux et la grêle. Face à nous se dressaient Cornes-Collines et les murailles sombres de la cité de Cornebrune, grassement engoncées dans la poussière que soulevaient les charrettes de la route des quais. Enfin, au bout du chemin sale que nous surplombions, derrière le petit port fluvial, la brume coulait paresseusement. À mes côtés, Cardou croquait à pleines dents dans une pomme encore trop verte, tandis que Merle jouait un air badin sur son pipeau, et Brindille, dont nous étions tous les trois amoureux, Brindille souriait. Nous avions le ventre plein. Je devais avoir un peu moins de 8 ans, c'est mon premier véritable souvenir. Si je remonte au-delà, il subsiste bien quelque chose, un certain nombre d'ébauches imparfaites, faites de sensations plutôt que de souvenirs. Je me rappelle ma mère, sa silhouette du moins, parmi les arbres immenses. Des cheveux sombres tissés de lierre, et une voix douce comme le miel. Quelque chose de plus vaste aussi, une présence plus diffuse, plus englobante à la fois. Un voyage, sans doute, dont les contours m'échappent. La longue fatigue d'une course folle, et cet homme sévère et tatoué, peut-être mon père. Puis l'éclat de lame d'obsidienne dans la nuit. Mais cela est bien loin, et avec le temps, comme on dit, tout s'efface. Il se peut aussi que j'ai voulu oublier. À l'époque, personne n'avait su me renseigner davantage, et le sujet ne m'intéressait pas vraiment. Les choses étaient ce qu'elles étaient, et je vivais au présent. Nous logions tous les quatre, Cardou, Merle, Brindille et moi-même, chez la veuve Taron, qui tenait une fermette à l'extérieur des murs de la ville, au pied de la colline du Verger. Il y avait un potager, une vingtaine de volailles, et quelques porcs de cette race longue que l'on trouve couramment dans les cantons de la Haute-Brune. Sur les marges de la maison vivait un jar cendré, appelé lasso, et la veuve, qui avait une peur bleue des chiens, prétendait qu'une bonne oie pouvait remplacer n'importe quel sac à puce. Lasso prenait son rôle de gardien de la ferme très au sérieux. Il y avait également, accolé à la chaumière, une petite grange qui nous abritait la nuit, un tas de pierres instables, dans lequel la veuve gardait le foin qu'elle ne devait pas au primat. Nous couchions là, serrés comme une portée de renardeau, et même au plus fort de l'hiver, nous n'avions pas tellement froid. Le soir, 4 bols de soupe de rave nous attendaient, la même purée que mangeait la veuve, la même purée qu'elle donnait au porc. La veuve allait sur ses 50 ans. Son mari était mort noyé dans la brune, lors d'une collision de cogues, dont il fut la seule victime. Les gens racontaient qu'il buvait un peu trop. La veuve Taron n'avait jamais eu d'enfant. Sans doute était-elle stérile et les mauvaises langues imputaient les penchants alcooliques de son mari à cette matrice inféconde. Elle était petite, éboîtée de la jambe gauche. Sa voix était forte et sèche, sa peau fripée comme du cuir mal tanné, et son accent vauvois était très marqué. Elle n'était pas de Cornebrune, et on le lui avait bien fait sentir. La veuve était seule, misérablement seule, mais je crois qu'elle préférait la solitude aux commisérations de ses semblables. Si la veuve Taron tenait bien une fermette, ceux de la ville, qui venaient de temps à autre pour faire affaire, avaient l'habitude de dire l'orphelinat Taron. La veuve haussait ses frêles épaules et laissait couler, sans doute parce qu'il y avait là une certaine vérité, mais je soupçonne qu'elle aurait aimé qu'on connût sa ferme sous un autre nom. Le prévôt de Château-Corne avait dû lui confier le soin de nourrir et de loger les orphelins désirables de la ville, comme cela se faisait périodiquement, et elle n'avait guère eu le choix. La veuve s'était appliquée à la tâche sans mauvaise volonté, mais sans manifester non plus l'intention de s'investir davantage qu'on ne lui demandait. Nous n'avions pas l'autorisation de rentrer dans la chaumière, même les soirs de neige, parce que la veuve filait la laine et ne voulait pas être dérangée. Mais elle ne nous battait pas, et je suis certain que la distance avec laquelle elle nous traitait ne partait pas d'une mauvaise intention. Ainsi, nous, les orphelins de la ferme Taron, étions de fait, en grande partie, livrés à nous-mêmes. Nous comprenions déjà n'avoir rien en commun avec la plupart des autres enfants de Cornebrune, et guère plus avec ceux de la cuvette. Je dirais que nous avions endossé trop tôt la responsabilité de petits adultes. Le monde n'avait jamais été à nos yeux une instance figée et confortable, mais une entité chaotique qu'il fallait dompter un jour à la fois. Nous savions que la seule chose sur laquelle nous pouvions compter, c'était un bol tardif de soupe de rave, et nous savions également que la plupart des enfants pouvaient compter sur davantage que cela. De jour, nous courions les rues en mendiant de ci de là quelques piécettes, de quoi acheter une miche pour le midi, un filet juteux de croche-carpe ou un bon morceau de lard. On traînait dans les pattes des gardes qui poussaient des jurons que nous apprenions par cœur pour les lancer ensuite aux oreilles des lavandières scandalisées. Nous faisions partie des enfants sauvages de Cornebrune et d'une certaine façon, je crois que nous étions heureux. Heureux des courses dans les ruelles de la ville basse, heureux de jouer à qui pisse le plus loin dans l'eau écumante de la Syrie, heureux de nous prélasser dans les herbes odorantes de la colline du Verger. Ce jour-là, quatre enfants étaient allongés à l'ombre des fruitiers, parmi les pommes vertes et l'odeur de l'été. L'un d'entre eux, que je n'ai pas nommé encore, s'appelait Sif. Et Sif, c'est moi. J'ai porté d'autres noms depuis, mais celui-là fut le premier, et c'est celui vers lequel je reviens toujours. Quand la veuve Taron parlait de moi, elle avait pour habitude de dire le Sifelin, ce qui veut dire le petit Sif. Sif était un raccourci aisé et un mot usuel à Cornebrune. Ce n'était pas pour autant un nom facile à porter, mais il m'est resté. Les Cornebrunois sont réputés pour leur simplicité rude, et l'on comprendra par la suite que s'ils avaient attaché plus d'importance à ce qui se passe en dehors de leurs murs, j'aurais pu m'appeler tout autrement. Dans les hautes terres, à l'ombre immense des forêts de conifères et des falaises qui s'étendent à l'ouest de Cornebrune, résident des gens farouches qui ont marqué l'histoire à leur manière. Durant les veillées froides, au cœur de l'hiver, les vieillards et les bardes murmurent encore à mi-voix le souvenir des hordes. Ils racontent les milliers de sauvages, fouettés par la faim, qui cherchaient le passage de la Brune et la conquête des terres plus arabes de la péninsule. Les guerriers tatoués et hurlants, hommes et femmes ensemble, qui vinrent, plus d'un siècle auparavant, se briser comme des vagues de sang sur les murailles imprenables de Château-Corne. S'il est vrai que les récits subsistent et que la plupart contiennent leur lot de vérité, il est aussi exact de dire que les temps changent et que les hordes avaient fini par disparaître. Avec les années, les efforts des primats, le commerce avec les hautes terres avait succédé à la guerre, si bien qu'à l'époque de mon enfance, à quelques milles à peine des tavernes où sévissaient les compteurs et les grabataires tremblants, se dressait depuis plusieurs générations déjà un assemblage fluctuant de yourtes bigarrées. Ces yourtes appartenaient aux descendants des hordes surgis jadis de la forêt de pierre, et le cercle inégal qu'elles composaient se nommait la cuvette. Ce nom a pour origine une curieuse mésentente linguistique. En clanique, la chauvette signifie cercle de troc. Mais les Cornebrunois mirent le terme à leur propre sauce. Certains que les sauvages définissaient ainsi le creux granitique sur lequel on avait bien voulu les laisser s'installer. Au sein de la cuvette, de nombreux clans allaient et venaient. Parmi eux, on comptait les Gaïches, les Gaïctes, les Païnotes et les Sifs. Les Sifs étaient les plus nombreux pour la simple et bonne raison qu'ils étaient les habitants originels de la forêt de pierre et que leurs terres s'étendaient traditionnellement tout près du lieu où Cornebrune avait été érigée. Néanmoins, dans l'esprit obtus de la majorité des Cornebrunois, un sauvage restait un sauvage, et si l'un s'appelait Sif, ma foi, il pouvait bien aller de même pour les autres. La peur suscitée jadis par les hordes avait fini par se muer en un mépris confortable, comme cela arrive souvent. On rit, on taquine l'ours savant alors qu'on tremble devant son congénère sauvage. Ainsi donc, à Cornebrune, malgré l'inexactitude du terme, on appelait Sif l'ensemble des peuples qui venaient troquer à la cuvette. Très jeune déjà, mon ascendance était visible dans mes yeux noirs et mes traits fins, mes cheveux jets et raides, mon teint basané et ce tatouage tribal qui s'enroulait dans mon dos. La veuve Taron énonçait simplement une vérité en me nommant Sifelin, de la même manière qu'elle aurait appelé un rat. Je crois en avoir souffert quelque peu, bien des années plus tard, en prenant conscience que je ne connaissais aucun chien auquel son maître n'avait pas daigné donner un meilleur nom que chien. Mes compagnons raccourcirent naturellement Sifelin en un sobriquet, et je finis par accepter Sif. Il n'empêche que je maudissais parfois ce nom, car en ville, où le mot était sur les lèvres de bien des marchands et de bien des commères, il m'arrivait souvent de croire, à tort, que l'on m'apostrophait. Il faut donc revenir à la colline du Verger et aux quatre enfants qui s'y trouvaient couchés. L'après-midi était lourd et indolent. Nous avions vaguement envisagé de faire un tour à la cuvette pour y apporter quelques fruits verts, en échange desquels nous aurions certainement pu obtenir quelques pincées de sel de la part de Frise, un vieux marchand gaïche qui s'était pris d'une certaine affection pour nous, à la manière rude des hommes des clans. Pourtant, nous sentions ce jour-là aussi paresseux que la brune elle-même, nos estomacs pesants, tout à la digestion des pommes, comme quatre coques de cog alourdies par leur chargement. Nous flânions à l'ombre du verger, Merle jouait du pipeau, Cardou mâchonnait en trognon acide par pure gourmandise et Brindy défaisait les nœuds de ses longs cheveux noirs. C'est à ce moment que j'aperçus le messager.
Ouais, je m'arrête là, hein.
Alors, Stéphane, si tu veux nous rejoindre. Alors, donc vous l'avez perçu un petit peu, je pense, avec la lecture de Patrick, puis ensuite on aura celle de Stéphane. Les univers de Patrick et Stéphane sont assez différents de ceux de Fabien et Jean-Laurent, et il nous a paru intéressant de montrer cette aussi différence de fantasy et la richesse qu'on peut avoir entre les textes de Jean-Laurent et de Fabien et ceux de Patrick et Stéphane. Chez vous, on a la création d'un univers, d'un nouvel univers, avec le souci de construire un monde qui n'existe pas, qu'on n'a pas connu dans notre histoire, mais qui reste crédible pour autant. Avec des récits initiatiques où l'on va traiter de l'enfance et le passage d'un âge de la vie à un autre. Et c'est ce qui nous a semblé réunir aussi vos textes. Et pour en revenir aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure avec Jean-Laurent et Fabien, chez vous, les dieux, comme on va vous le découvrirez dans la lecture, en tout cas, une certaine forme de mythologie est toujours présente et vient influencer ou en tout cas se développer dans les récits. Alors, la première question, justement, que j'aurais à vous poser, c'est de connaître vos sources d'inspiration, qu'est-ce qui vous nourrit, quelles cultures sont familières et en tout cas ont irrigué vos différents récits. C'est une question générale pour petit à petit rentrer dans les ouvrages. Qui veut commencer ?
Allez. Alors clairement, moi je suis vraiment passionné d'histoire d'une manière générale, pas tellement par les dates, mais surtout les mécaniques sociales peut-être, d'une manière générale. J'ai essayé justement de couper un petit peu avec les codes qu'on peut retrouver assez classiquement dans une certaine frange de la fantaisie avec le peuple qui ressemble aux Vikings, le peuple qui ressemble aux Romains, j'essayais de créer quelque chose d'un tout petit peu différent, bien que on soit pour les primautés de Brune, donc qui est l'endroit où se déroule l'essentiel de l'action des premiers tomes du cycle de Sif. On est dans une société féodale occidentalisante assez classique, quoi. Ce qui m'intéressait en fait, c'était de créer une histoire qui se déroule dans un cadre, on va dire féodal. Mais sans l'influence moraliste ou moralisante d'une église. D'une entité, puisqu'il n'y a pas de. Les Brunides, en fait, n'ont pas de pratiques religieuses organisées, en fait. Ils n'ont pas de clergé organisé. Ils ont des pratiques religieuses, on va dire, locales, avec des divinités très locales, mais il n'y a pas de caste religieuse, quoi. Je sais pas, pour le coup ta question elle est super vaste. Moi j'ai relu des trucs sur les Mongols, les Varègues, les Perses, les Turcs, l'Europe médiévale, l'Antiquité, les Grecs notamment, le royaume épirote,
Ce qui t'intéressait dans ces sociétés, c'était justement leur organisation sociale, c'était
leurs croyances, qu'est-ce que tu as puisé qui t'a paru intéressant pour t'aider à composer l'univers dans lequel tu t'exprimes?
C'est une bonne question. Je trouve que l'époque à laquelle mon cycle se déroule fait un peu écho à une Europe du haut Moyen Âge, voire peut-être même un tout petit peu avant, en fait, à un moment où le monde, en gros, est encore une entité très disloquée avec des petits pouvoirs, peu de grands pouvoirs centralisés. Il n'y a pas tellement d'empires, ou alors on en parle, mais ils sont loin. On est vraiment sur des entités politiques qui sont très locales, qui sont très fragmentées. Et je pense que ce qui m'intéresse, en fait, l'existence même de toutes ces ce foisonnement de culture que moi je trouve absolument passionnant, quoi. C'est presque une appréciation esthétique, mais ça me ravit d'habiter dans un monde où il y a eu autant de choses différentes et d'histoires, d'art. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était quoi ta question? je me suis égaré.
Oui, non, c'était la question. C'est bon. La question, c'était de savoir ce que tu avais. Qu'est-ce qui, dans ces sociétés-là que tu nous as décrites, et ces âges-là que tu nous as décrits, qu'est-ce que tu avais puisé et qui t'avait semblé tellement symptomatique que ça puisse aller alimenter ton récit, en fait?
Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, là-dedans, c'est justement d'avoir une lecture moderne de ces histoires, puisque c'est bien d'histoires qu'il s'agit. Et moi, j'ai une lecture que je qualifierais de plutôt matérialiste de l'histoire. Et ce qui me passionne, c'est justement la mécanique sociale, comme je disais plus tôt. Je dirais que c'est vraiment plutôt ça qui m'intéressait, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une société tantôt sédentaire devient nomade, pourquoi ce qui m'intéresse, c'est de outre le fait de mettre ça en scène, c'est d'en explorer un peu les rouages. Dans l'idée que tout peut s'expliquer, quoi, tout a une raison.
Alors on ne devance pas, c'est la question suivante, et je vais y revenir. On va laisser Stéphane répondre à la première question.
Oui, ce qui est super dans le roman de Patrick, c'est que on sent qu'il y a un travail sur la réalité matérielle et économique de cette époque, qui réfléchit à des questions vraiment, s'il y a une civilisation à cet endroit-là, s'il y a tel armement, qu'est-ce qu'il y a comme industrie qui le permet, qu'est-ce que ça sous-tend, comment le climat l'influence. Je suis un peu dans la même démarche, je suis historien de formation, médiéviste à la base, et puis forcément j'ai un peu baigné dedans aussi. Moi, j'étais plus spécialisé dans le 14e siècle et le 15e siècle dans mes études, donc j'ai pris une civilisation d'un niveau technologique qui est plus avancé, qui est plus 14e, fin 14e, début 15e, ce qui permet les armures de plate complètes, mais aussi le début de l'artillerie à poudre. Faut savoir que historiquement l'artillerie à poudre arrive en même temps que l'armure de plate, dont elle va signifier pourtant la fin, ce qui est quand même assez paradoxal. Ça demande aussi des pratiques, par exemple, du haut fourneau plus avancé au niveau technologique, donc une société peut-être plus stable, déjà plus organisée. En dehors de ça, on écrit avec qui on est. Et pour créer son univers à soi et sa propre voix en fantasy, il faut faire avec son propre parcours. Donc il y a un parcours d'historien. Il y a évidemment ce que j'ai exploré comme historien, mais il y a aussi mes propres racines, et notamment le fait que j'ai vécu en Inde quand j'étais gosse, à une époque décisive, puisque moi, mes premiers souvenirs, ils sont entre 4 et 6 ans, et à ce moment-là, j'étais en Inde. Mon père étudiait les pêcheurs du Kerala. Et j'ai tout de suite été baigné dans des petites BD en anglais, comme on disait, avec la mythologie hindoue, et la mythologie hindoue m'a très fortement bercé, quoi. Puis j'ai eu un dramatique accident vers l'âge de 7 ans, j'ai appris à lire. Et tout de suite, il a fallu que j'écrive, que je raconte, et donc je me suis mis à lire énormément aussi l'Iliade, l'Odyssée, et toute une série d'autres mythologies, dont les mythologies nordiques, celtiques, etc. Et puis à explorer toute une série de formes narratives, dont le fait de re-raconter l'Iliade sur des gros enregistreurs histoires à bande à ma manière, en brodant et en rajoutant des épisodes imaginés, comme le faisaient d'ailleurs les Aed à l'époque. Hein. On brode, on raconte, on enrichit le truc. Les meilleurs éléments se perpétuent d'un Aed à l'autre. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé finalement à construire un monde qui est celto-védique finalement, qui est un mélange d'inspiration et d'influence de mythologie européenne et hindoue, avec peut-être une mise en avant de mythologie d'inspiration celtique, et en particulier aussi, là on n'est pas dans le celtique, du Kalevala finnois, qui a fort influencé ma façon de... la façon de s'exprimer du barde. Savoir que le Kalevala, c'est un des derniers mythes qui a été mis par écrit directement depuis la tradition orale au 19e siècle. Un érudit du nom d'Elias Lönnrot s'est promené en Carélie et dans les parages et a recueilli ce qui a formé finalement le corpus du Kalevala, qui est une composition artificielle de cet érudit, de la bouche des derniers bardes, des villageois, de gens qui connaissaient encore parfois un nombre de vers par cœur, un nombre de vers hallucinant, hein. Je ne sais plus si c'était 10 000 vers ou 100 000 vers, certains bardes, vraiment une quantité de vers hallucinante. On se demande comment c'est possible. J'ai voulu, pour retrouver la voix de mon barde, essayer ça. Donc on a fait des soirées lecture du Kalevala avec des amis harpistes, musiciens médiévaux, etc. Et on s'est dit, on va lire une heure et puis ça va passer. Et puis en fait, quand on a arrêté, trois heures étaient passées, on avait lu 120 pages de vers et on s'en était pas rendu compte. Il y avait une transe qui s'était créée, vraiment la transe de la littérature orale, la transe du mythe. J'ai vraiment expérimenté ça et ça m'a influencé d'une autre façon aussi, c'est qu'on est dans une société où tout doit aller vite, où j'entendais un de mes éminents collègues dire qu'il fallait du muscle et pas de gras sur le livre, ou aller à la forme simple, etc. Et c'est vrai qu'on a aussi un cinéma qui est habitué à aller avoir de l'action, à enchaîner. Et moi, j'ai fait tout le contraire. J'ai retrouvé le contemplatif, le temps d'écouter la voix de la forêt, la voix du fleuve, etc. C'était d'ailleurs une crainte éditoriale. Est-ce que les gens vont pas décrocher de ça? Il y a des gens qui décrochent du côté un peu contemplatif du début du roman, après ça s'accélère, mais en fait, curieusement, c'est même une des choses qui a marché et que des gens ont souligné comme étant « mais c'est formidable, je découvre l'envie de prendre le temps, et ton bouquin, je le découvre pas en page-turner, mais je prends le temps de savourer les sensations ». Donc il y a eu aussi l'inspiration, le retour de la tradition orale, où on avait le temps à l'époque d'écouter pendant les longues soirées d'hiver des longs mythes. Évidemment, j'ai voulu retrouver ça et ben, du coup ça m'a amené dans une direction un peu à contre-courant par rapport à ça, quoi.
Mais écoute, c'est étonnant là, la façon dont tu as mis en perspective ton univers et celui de Patrick, parce qu'effectivement on a l'impression qu'il y a une succession dans le temps, même si ce sont des univers différents, mais quand tu parles d'une société un peu plus développée, il est vrai que on retrouve une importance incroyable dans le roman de Patrick des nomades, de la société nomade, d'une société effectivement éclatée où les gens essayent de faire corps éventuellement. Dans ton roman, c'est une société qui essaie de plus développer, qui évite d'éclater justement. On a l'impression et pourtant ce sont les mêmes passions, les mêmes haines, les mêmes histoires qui attisent les feux dans les deux cas. J'ai le sentiment à la lecture. Comment est-ce que vous avez réintégré ce que j'appellerais un peu pompeusement le jeu des passions humaines dans des univers que vous avez créés à l'origine et qui, comme je l'ai dit, ne sont pas réels? Comment est-ce qu'on réintègre ce jeu des grandes passions humaines? Voilà, c'est une question un peu générale, mais...
Je pense que l'histoire fait beaucoup, parce que quand on reste dans l'histoire mainstream, dans ce qu'on apprend à l'école ou dans ce qu'on voit le plus souvent, on est dans l'histoire événementielle, etc., mais ça fait longtemps que maintenant on pratique aussi l'histoire des mentalités qui nous permettent parfois de recevoir des tas d'événements beaucoup plus anecdotiques ou beaucoup plus proches de la vie quotidienne. En fait, quand on creuse l'histoire, on découvre un vivier étonnant de passions humaines, de parcours de vie, d'aléas, d'incidents de vie qui donnent envie d'être racontés. Moi, par exemple, c'est toute la partie... un livre qui s'appelle « Les marginaux parisiens » au XIVe et XVe siècle... de Guérémé, qui est une référence sur vraiment la pauvreté, les marginaux dans les grandes villes. Ça m'a super boosté l'inspiration sur le parcours de vie d'un des personnages. Il y a beaucoup de choses à creuser, et puis finalement on rencontre des thèmes qui sont universels, qui sont l'humanité dans son intemporalité, et on rencontre aussi des passions qui sont modifiées par le contexte et qui et des histoires de vie ou des réactions humaines parfois qui sont différentes dans une époque différente et dans un monde différent. Très influencé par Umberto Eco, parce que Umberto Eco avait une capacité incroyable de rentrer dans la mentalité d'une époque. Et avec lui, on n'avait jamais l'impression d'être dans un monde de carton-pâte où les gens portent des armures et des cottes de mailles, mais ont la coiffure des Rolf Flynn, pour caricaturer ce qu'on a vu à une certaine époque. Et encore maintenant, quand on voit le Trône de Fer, il a fallu qu'il foute à Jamie Lannister une espèce de veste en cuir qui frime, mais qui est complètement anachronique. Mais c'est anecdotique parce qu'on est dans le décor, mais il faut faire attention à ne pas projeter nos mentalités, tout en ayant une part de passion qui est universelle et qui est intemporelle. Et la fantasy a d'ailleurs l'avantage de nous sortir de notre monde et donc de permettre de traiter les choses de façon neutre. Il y a aussi un intérêt d'historien, j'ai envie de dire, à voir comment la mentalité est modifiée dans une société où vous n'avez aucune intimité, où les toilettes sont collectives, où de vos frères et sœurs vous en avez eu 7 ou 8 et la moitié est mort en bas âge. Ça change aussi très fortement les réactions humaines. Et pour moi, la fantasy, c'est avant tout un dépaysement et c'est avant tout un voyage. Et donc, le fait d'avoir des réactions humaines qui soient différentes, dues au contexte différent, des cultures qui se développent différemment, j'essaie d'être cohérent par rapport justement à l'infrastructure, donc aux réalités matérielles et économiques. C'est pareil pour Patrick.
Parce que c'est un flambeau, effectivement.
Pour moi, ça fait partie de l'évasion de la fantasy, autant que les grandes montagnes, les grands espaces et les forêts peuplées de fées.
Je sais pas trop quoi dire après ça, parce que... oui. Peut-être juste dire que, Stéphane, toi, tu as une base d'historien, et je pense une maîtrise de cette discipline-là que moi, je ne fais qu'effleurer. Ce qui m'intéresse aussi, c'est une approche que je qualifierais de plus axé sur les sciences humaines, qui en fait repose sur exactement ce que tu viens de décrire, quoi. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les contraintes matérielles dans lesquelles les gens évoluent, et du coup, quels impacts est-ce que ça a sur la manière dont une société va se créer et dont des psychologies vont se développer, quoi. Je dirais que c'est presque un parti pris que je qualifierais de politique en réalité, puisque on est dans un processus qui finalement remet en question l'idée d'une nature humaine qui serait figée et irrémédiablement bonne ou mauvaise selon. Et là, on part du coup dans des univers où ces notions-là qui nous semblent acquises qui sont constitutives de ce que nous sommes pour la plupart n'existent pas forcément, parce qu'en fait elles n'ont pas forcément germé, ou le contexte dans lequel ces idées-là sont apparues n'a tout simplement jamais existé. C'est une fin un peu brutale, ça, non? Je vais travailler la fin de mes phrases. N'a jamais existé.
Justement, il y a quelque chose aussi qui me frappe, et tu viens de le mentionner, Stéphane, c'est votre capacité à tous les deux à gérer le temps à l'intérieur du roman et aussi ce que j'appelle à l'extérieur, c'est-à-dire la capacité à développer un cycle. Bon, ça, beaucoup le font, mais vous prenez réellement le temps d'aller où là vous avez envie d'aller. Et on va en reparler, mais sur la gestion du temps à l'intérieur du récit, j'ai trouvé que vous arrivez avec un art consommé d'insérer des failles temporelles, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas des incises, dans un récit qui pourrait être linéaire et qui presque se suffirait à lui-même. Est-ce que dans votre écriture, ça demande un travail important, cette gestion du temps et de la vie des personnages?
Pour venir de terminer le premier livre de Patrick. Il y a toute une partie qui se passe, je spoil pas trop, mais dans la forêt, entre deux personnages, qui est un apprentissage, qui pourrait répondre à cette définition d'un long développement où il ne se passe pas énormément de grandes actions. Et pourtant, tous ces petits détails font que je me suis ennuyé à aucun moment, parce que tout est intéressant, tout est nourri, tout a du sens. Et donc c'est pas tellement une question de vitesse de l'action, mais de densité de ce qu'on a à raconter. Et quand on a quelque chose à raconter, après c'est plutôt une question de niveau de caméra. Raconter comment on survit dans la forêt, moi j'ai vraiment admiré ta façon de justement tenir compte des réalités matérielles, d'expliquer comment on fabrique une cabane, comment on récolte le suif, comment, etc. Il y a un travail documentaire aussi, mais tout ça est super intéressant pour immerger et pour donner une réalité au monde. Et il n'y a rien à faire, il y a un choix devant lequel se trouve confronté tout auteur de fantasy, parce qu'il faut faire vivre un monde qui soit n'existe pas, soit n'existe plus, soit un peu des deux, en tout cas que les gens ne connaissent pas. Ça demande un développement, et donc l'auteur est toujours confronté à une question de choix de niveau de détail, de choix de niveau de caméra. Et les deux choix sont honorables. On peut avoir un roman qui va vite, qui est rapide, qui est enlevé, dans lequel il y a beaucoup d'action, on s'attarde moins aux détails. Et c'est le cas de toute une partie de la fantasy, notamment francophone. Et puis on peut faire le choix d'aller plus loin dans l'immersion et le réalisme du monde, ce qui risque de plaire à des lecteurs plus exigeants, ce qui peut peut-être gêner des lecteurs qui ont plus envie d'action immédiate. Ça, c'est vraiment une question de paramétrage par rapport au public. Mais je pense qu'en tout cas, le fait que ce qu'on raconte ces temps naît du fait qu'on a envie de rendre le monde tangible, réel, qu'on s'est documenté, qu'en se documentant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes à raconter dans les détails et qui étaient même exploitables comme ressort narratif, quoi. Par exemple, moi je suis parti sur la remontée d'un fleuve à travers une forêt boréale sauvage, puis super, mes bateaux remontent le fleuve dans la forêt boréale, documentons-nous sur la batellerie au Moyen-Âge. Et puis là, waouh! Ah, c'est compliqué à monter un fleuve. Mais du coup, il y a plein de détails intéressants qui naissent, et finalement, il y a des aléas du récit qui n'ont rien de fantastique, auxquels je n'avais pas pensé au départ, qui surgissent comme ça. Des péripéties, on se dit, mais assumons les conditions matérielles de ce monde, assumons le travail documentaire et les détails. Hein, où c'est comme, tiens, j'ai blessé un personnage, tout va bien, puis merde, c'est pas si facile, hein, une pointe de flèche, comment on l'enlève dans les conditions comme ça, puis tu te rends compte qu'en fait tu vas devoir te traîner à blesser sur un tome ennemi s'il le faut, parce que sinon c'est pas réaliste, mais tu te rends compte que ça donne plein d'éléments intéressants à exploiter si tu l'assumes, quoi. Enfin moi c'est comme ça que je vis.
Du coup, peut-être je vais prendre un détour pour répondre à ta question différemment, mais peut-être d'un point de vue plus littéraire. Puisque tu parlais de temporalité, en fait, je pense que avec Stéphane, on a aussi un point en commun là-dessus, au niveau du rythme narratif qu'on a choisi. Je pense que c'est pas un hasard le fait qu'on soit sur des tous les deux sur des, on va dire, des cycles qu'on envisage comme assez longs. Voilà. Et je crois que le fait de mettre en place du coup d'avoir un univers qui prend le temps de se mettre en place, que ce soit en livrant effectivement du détail ou juste en laissant le temps aux choses d'être. Enfin, il y a des moments en lisant Manèche, je me souviens que ça m'a rappelé Lévi-Strauss, quoi. Je me suis rappelé ma lecture de Triste Tropique, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était quasiment de la sociologie, mais de l'anthropo, quoi. Mais pas l'anthropo chiante. J'ai trouvé ça, en fait, nécessaire, parce que clairement c'est des endroits où on va passer beaucoup de temps en tant qu'auteur, mais aussi vous, du coup, vous allez y passer un certain temps. Et je crois que ce rythme un peu plus lent, il s'impose de lui-même. Alors après, il y a des auteurs comme, je sais pas, je pense à R.R. Martin, par exemple, qui procèdent pas de la même manière, mais qui, du coup, comme il gère à peu près 30 axes narratifs différents en même temps, du coup, il arrive à feinter par rapport à ça. Mais du coup, je pense que dans la mesure où tous les deux, on est plutôt sur un principe de récit rapporté, en fait. C'est-à-dire que toi, il y en a plusieurs. Moi, il y en a qu'un, mais à mon avis, ça joue aussi sur la manière dont on peut retranscrire un récit et le rythme qu'on va donner à une narration, puisqu'en fait, on est sans cesse en train de jouer entre les subjectivités différentes qui se mettent en place dans le cadre d'un récit qui est restitué, quoi. Du coup, il me semble que le rythme plus long, plus lent est peut-être une caractéristique du cycle long en récit rapporté, peut-être, je ne sais pas.
Et je ferai un commentaire avant de laisser la place aux questions. C'est que avec Julien, en préparant la rencontre, on s'est aussi dit que ce temps que vous prenez, en fait, il permet à votre langue et à votre poésie, à tous les deux, de se développer. Alors, je fais juste un commentaire si vous voulez rebondir là-dessus, mais je pense que c'est important parce que de laisser cette langue que vous avez chacun de se développer, elle contribue aussi à la crédibilité, en tout cas à la richesse et à la cohérence du récit. Elle s'insère parfaitement et je pense que ça fait partie de l'un des plaisirs de lecture aussi qu'on a tous ressenti. C'est pas simplement de dire ah il y a des beaux mots, mais c'est des beaux mots qui sont bien mis. Voilà.
Je pense que à partir du moment où, enfin, de la fiction d'une manière générale, à partir du moment où on rentre dans ce, enfin, on accepte le principe de la fiction, on accepte aussi que, en fait, le livre c'est pas grand chose finalement, c'est un vecteur somme toute assez imparfait, et que l'histoire qu'on raconte en réalité, elle prend existence dans le lecteur en fait. C'est la personne qui va, on va dire, le récit lui-même, il existe sur la page, mais ce que le lecteur en ressent, c'est surtout ce que la page va lui dire à lui. Donc si on n'est pas capable de donner une consistance à l'univers qui soit capable de résonner à l'intérieur du lecteur, on s'est un peu planté quoi, quelque part. Et je crois que, enfin, pour le coup, on a tous les deux un travail autour de la langue, autour de la sonorité, du rythme, qui est, je pense, enfin, je sais pas, hein, du coup, on n'a jamais parlé de ça, Stéphane, ensemble, mais en tout cas, enfin, je sais que pour ma part, c'est un truc qui...
Tu y veilles.
Ah ouais, voilà. Moi, c'est vraiment un processus, quand je travaille, je réécris énormément. C'est un processus que j'assimile quasiment à l'artisanat, quoi. Je sais ce que j'essaye de faire. C'est comme de la musique, en fait. C'est comme de façonner, une épée ou quelque chose. On a une matière brute et il faut l'articuler. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je crois que, Stéphane, en fait, toi, c'est la première chose que c'est ta première série, en fait. C'est impressionnant, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. je m'arrête. Je te laisse.
Oui, je peux pas dire grand chose de plus. Personnellement, je suis musicien, donc forcément, je dois, c'est à un point où je dois même parfois me surveiller pour ne pas rajouter un groupe de mots qui serait pas forcément utile pour créer une métrique qui me plairait. Mais quand même, je me surveille. Mais c'est vrai que le but est aussi d'avoir une beauté de la langue, un plaisir linguistique, et alors aussi d'éveiller vraiment des sensations. D'aller chercher aussi, de jouer sur les cinq sens, de jouer sur l'odorat, le toucher, le charnel, des choses qui sont souvent moins exploitées en littérature, où on reste malgré tout dans une société qui est plus visuelle. Et alors l'auditif, hein, bien sûr.
Et c'est vrai que l'un des moments forts du Bard commence avec des ressentis. Il va procéder à un chant, mais on est dans le ressenti, et ça, c'est un très très beau passage du roman.
Il doit avaler la terre pour parler à la forêt, oui. De séduire la forêt de son chant.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Est-ce que tu peux devant nous avaler la terre ?
Mais derrière, il chante alors.
J'ouvre une page du bâtard de Kosigan au hasard et je te demande de faire ce qu'il y a dedans. Et non, ça ne sera pas le passage que tu as lu tout à l'heure. N'essaye pas.
Écoutez, s'il n'y a pas de questions...
Bon, ben voilà. Je ne voulais pas l'apprendre, justement. Non, je me demandais... donc, vous avez expliqué quelles études vous avez faites. Donc, quelle est votre profession ? Est-ce que vous vivez de vos livres ou est-ce que vous faites comme certains, c'est-à-dire vous travaillez, donc du coup vous n'avez pas de temps d'écrire et du coup vous n'avez plus de loisir entre guillemets, à part écrire, mais qui est un grand loisir, mais.
Mais donc en fait, j'ai gardé un emploi à 80%. Patrick parlera de sa situation. Après, moi, j'avais des contraintes en commençant, parce que j'ai une maison à payer, j'ai une fille en dehors de mes livres, de mes enfants qui sont mes livres, j'ai aussi une vraie fille de chair. Et donc, ça me demande malgré tout d'avoir plus de revenus. C'est assez difficile de les réunir, ces revenus. Donc, moi, j'ai gardé un 80%. C'est vrai que c'est une problématique qu'on partage et dont on cause aussi avec d'autres auteurs ici présents. Quand je vois certains copains qui ont fait le choix d'en vivre à temps plein, finalement, ils consacrent. Alors moi, j'en rêve en disant « Ah, si j'avais toute ma journée pour déployer mes romans à mon aise, je pourrais en écrire plus, ça irait plus vite, il serait même meilleur et j'aurais plus de temps pour mes loisirs. » Et en fait, ces potes, ils sont pas logés à une meilleure enseigne que nous, ils ont pas plus de temps que nous pour écrire les romans. Enfin, ceux à qui j'ai parlé beaucoup n'ont pas plus de temps pour écrire les romans qu'ils ont vraiment envie d'entendre, d'écrire. Et ils font des choses alimentaires telles que écrire des autobiographies de Maurice Druon, signer des épisodes de Plus belle la vie ou alors aligner les bibliothèques vertes au rythme de 20 par an. Si j'avais un boulot dans une banque qui m'ennuie avec un chef tyrannique, ce serait volontiers. Mais là, j'ai un travail dans le social que je trouve très intéressant avec une équipe dont je suis le chef tyrannique. C'est pratique. Donc, il y a une équipe que j'ai construite où j'ai un fort lien affectif, où je travaille avec des migrants, avec des gens intéressants qui ont un parcours, qui m'apportent quelque chose et qui nourrissent aussi mon écriture, qui lui ajoutent peut-être une fibre sociale. Ça a plus de sens pour moi que d'écrire des épisodes de Plus belle la vie. Et finalement, c'est sûr que je bosse beaucoup, du coup, que je fais parfois de très longues journées en cas de bouclage, qu'il y a des sacrifices qui vont avec. Mais en même temps, eux aussi, et la différence, c'est qu'ils bouffent des pâtes. Finalement, l'un dans l'autre. Alors, évidemment, il y a un moyen de faire le choix aussi de moins de contraintes financières, de moins de contraintes matérielles.
Moi, je n'ai rien. Pour le coup, ouais, je vais pas dire que c'est un choix, mais un peu quand même, en fait. J'ai fait le choix de pas faire d'enfant. Ça n'arrivera pas. J'ai aussi fait le choix d'un certain mode de vie. Je vis de ce que je fais. Enfin, disons que j'en survis convenablement. Après, c'est parce que j'ai aussi fait des choix de vie qui. Enfin, j'en vivrai pas à Paris, par exemple, hein, clairement. Voilà. Moi, j'habite dans Limousin. Je suis intégré dans des réseaux affinitaires, entre autres, avec des gens qui se soutiennent mutuellement. J'habite dans ce qu'on pourrait appeler une colocation, mais en gros, l'idée c'est qu'on s'épaule tous économiquement. Dans ce cadre-là, moi, je m'en sors plutôt bien. Mais effectivement, ouais, c'est un choix de vie, quoi. Moi, je juge pas les gens qui peuvent pas le faire. Moi, j'ai essayé plein de trucs dans ma vie. J'ai essayé d'écrire et de travailler en même temps. C'était pas possible. Je me suis retrouvé à travailler et à pas écrire. Donc, vu que travailler, ça m'intéresse pas des masses, j'ai préféré écrire. Et il se trouve que du coup, depuis à peu près 3 ans, je vis de ma plume. Enfin, en tout cas, j'arrive à tirer un revenu qui fait que je suis autonome économiquement, quoi. Après, j'ai aussi tenté d'autres modes de vie que ça. J'ai passé 6 ans, notamment en Corrèze, à vivre dans une ferme en autosuffisance. Donc ça, c'était autre chose. J'avais un peu plus le temps pour écrire, du coup, mais il y avait d'autres contraintes, notamment l'isolement qui rentrait en jeu. Et je dirais que là où je suis aujourd'hui, c'est plutôt... je trouve que j'arrive à un bon compromis, quoi. Voilà. Donc c'est possible. Je n'écris pas d'épisode pour Plus belle la vie, mais je vis chichement par choix. J'écris des nouvelles érotiques sous pseudo, même pas. je passe du coup, je sais plus à qui j'en parlais, tout à l'heure, en gros, je passe entre 5 et 8 heures par jour à écrire. Je fais ça à plein temps, voilà. J'ai pas de vacances ou de et généralement, enfin j'ai pas trop le temps d'en prendre dans le cadre de cette série. En tout cas, je suis parti sur un rythme de parution qui va être de l'ordre d'un tome tous les deux ans et je vais être sur ce genre de rythme là pour la décennie qui vient quoi. Donc on va voir dans 10 ans voilà, je pense que je vais avoir plus de rides et de cheveux gris mais advienne que pourra.
Comme titre, pourquoi le choix de l'enfant de poussière?
Eh bien, parce que c'est très difficile de choisir un titre, que je n'avais pas la moindre idée de comment est-ce que j'allais appeler ce livre, et que mon éditrice a dit « j'ai une idée, si on l'appelle l'enfant de poussière », j'ai fait « ouais, en plus ça peut être cohérent avec des trucs qui vont avoir lieu dans la saga, donc on va dire que oui ». Donc voilà, en fait, ça s'est décidé comme ça. On a vraiment, ça a été vraiment un truc. On a passé une semaine dessus à proposer des trucs, des titres, et puis on trouvait rien. Mais vraiment, quoi. On a enchaîné les suggestions qui étaient toutes plus nulles les unes que les autres. Et là, elle a sorti l'enfant de poussière. Et j'ai fait ouais. Donc voilà, l'enfant de poussière. Par contre, la peste et la vigne, c'est venu très vite. Ça, pour le coup, voilà. Ça, je l'ai choisi et je l'ai posé. C'était fait. Mais ouais, le premier tome, on savait pas du tout comment l'appeler. Donc on l'appelait comme ça.
Et je fais juste une petite remarque complémentaire, il y a les titres, il y a aussi les couvertures. Et tous, les quatre là, vous êtes quand même particulièrement bien traités à ce niveau. Ça nous fait plaisir d'avoir des ouvrages comme ça dans les mains. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On laisse Stéphane nous faire une lecture. Le barde, alors on va lui donner un peu de terre dans la... Est-ce que...
Non, je... Ah, du pied ça, ouais, peut-être. Même question que Fabien tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu lire un passage d'un quelconque de mes... Non ? Est-ce que je commencerai simplement par le début de la saga, alors ? Oui ? Après, j'ai des passages grivois aussi, si vous préférez, mais il y a des enfants, hein. Vous voulez quoi, le début de la saga ou un passage grivois ? Je vais voir si j'ai le temps pour les deux. Bon, le passage grivois est court, on verra si j'arrête. J'ai combien de temps, Yvan?
Il est 18h30.
Oui.
On peut prendre un quart d'heure si ça
va. Ok. Et on attaque tout de suite avec le dit de Fintan Kalatin, le barde qui est notre narrateur. Le vieux Framar s'échappe de ses songes. Serpent languide, il s'étire dans son lit de terre froide. Peu à peu se réchauffent ses entrailles engourdies. Son échine fourmille de craquements. Au-dessus de lui, le ciel a basculé, évacuant les étoiles. Alors le vieux Framar sait que le temps est venu. Il inspire, bande son souffle, brise le sortilège et lance ses bras argentés à travers le Vientrir, sur des milles et des milles de forêts boréales. Dans un silence immuable s'écoulent ses eaux. On pourrait entendre respirer les arbres. Ainsi débute mon chant, par l'éveil du fleuve à la fissure de l'hiver. Des morceaux de glace se détachent de ses berges, ses flots se gonflent du produit de la fonte, sa panse s'arrondit et devient navigable. Et tandis qu'il chevauche le nord, la forêt tout entière reprend vie. Des ombres muettes se préparent à ranimer leur vieille chasse. Les esprits prisonniers de la terre gelée s'en échappent en sifflant pour sinuer le long des racines. Puis, un certain jour de printemps, le vieux fleuve s'avise de nous offrir un présent. Aux premières brumes matinales, il charrie dans ses doigts glacés un homme aux jambes brisées qui dérive, fiévreux, sur un entrelac de branches au milieu du courant. Bien que le ciel soit clair, il est encore très tôt. Dans ce pays, en cette saison, la nuit ne fait qu'effleurer vos paupières, à peine un battement d'heure. Sur la grande gabarre amarrée à la rive, tout le monde est encore endormi, à l'exception de Varagwin, le batelier, qui, comme toujours, promène ses insomnies sur le pont. C'est donc lui qui le voit venir en premier, c'est un spectacle étrange, à présent très incongru. Vautré sur une fourche de bois blanc, le blessé est sans connaissance. Ses vêtements flottent autour de lui, en lambeaux. Son visage est couvert de sang séché, au point que de loin, il apparaît noirci et craquelé comme le trognon d'un brûlé. Lorsqu'il est certain de ce que ses yeux voient venir, Varagwin ulule ce cri qui nous tire du sommeil, un long appel vibrant de marinier. Puis, sans attendre, il se noue une corde autour de la taille et il saute par-dessus bord. Je me hâte d'endosser ma longue cape rapiécée et d'émerger de la tente de fortune qui nous sert de dortoir, à l'arrière du bateau. Un instant plus tard, je me penche à mon tour par-dessus le bastingage. Plusieurs de mes compagnons viennent s'y presser à mes côtés, aussi hébétés, malfagotés et blafards que moi-même. Nous suivons des yeux notre batelier qui force sa voie en travers du fleuve, de l'eau roulant sur ses épaules. Il n'est pas loin d'intercepter les branches vagabondes qui tournoient lentement sur elles-mêmes dans des remous contraires. Puis il perd pied et se met à lutter âprement contre le courant pour garder le cap. Varagwin, avec son grand corps maigre, n'a rien d'un cogneur. Mais sa façon de fendre l'eau m'a toujours laissé pantois. Il vous en tranche du plat des mains. Il l'emboutit du front. Il la cisaille des pieds. En quelques brasses nerveuses, il parvient à atteindre le radeau de fortune, puis à y passer une boucle de sa corde. Alors il lève un bras à notre adresse, et le gars se met à tirer sur l'autre extrémité de la corde pour les aller vers la gabarre. Lui, la fourche de bois blanc et son passager. Le coin est dangereux avec ses tourbillons sournois. Tout le monde voit bien que notre compagnon s'épuise à jouer la loutre dans cette eau glaciale. Varagwin s'arrime à la coque. La nasse de branchage s'immobilise contre le flanc du navire. Tout l'équipage applaudit le grand batelier barbichu, parce que son sauvetage improvisé est un authentique exploit et qu'il a agi sans la moindre hésitation, sans quoi il aurait été trop tard. L'étrange esquif aurait passé son chemin. Lui, il tremble trop pour sourire, grelotte de toute la longueur de ses membres, immergé jusqu'à mi-poitrine. C'est Miar qui descend dans l'eau pour l'aider. Ce grand diable de Miar a l'humeur aussi sombre et sauvage que ses cheveux. Il se méfie tout de suite. C'est tellement insolite. Le moribond a les deux poignets pris dans une corde de chambre, dont les nœuds sont un peu relâchés. Et dans cette boucle, quelqu'un, peut-être bien lui-même, a enfilé l'un des ergots de la branche. Ça l'a maintenu tant bien que mal lié à celle-ci, lui permettant de se laisser aller dans l'inconscience, sans trop craindre de basculer. L'une de ses jambes est enflée et tordue selon un angle étrange. L'autre, lacérée, râpée et meurtrie à sang, comme s'il l'avait arrachée au croc d'une bête sauvage. Nous tous, de la grande gabarre, qui venons à peine d'émerger du sommeil, nous dévisageons ce miraculé avec une stupeur abrutie. Miar tire son couteau pour trancher les liens, puis les gars descendent en grand pavois, bien horizontal, pour y coucher le blessé et le hisser à bord avec des trésors de précaution. Il gémit faiblement lorsque nous le déposons sur le pont, presque sous les naseaux de nos chevaux. Je joue un peu des coudes pour entrevoir son visage. Je lui trouve une expression étrangement paisible. Notre homme est de taille moyenne, il ne doit pas avoir plus de 25 ans. La peau légèrement cuivrée sous son masque de sang noirci. Le nez busqué, une bouche sensuelle, un foisonnement de boucles noires collées à son crâne par la sueur et le sang. Un bel homme qui nous a déchiqueté là, grand-père Framard. Mais pas un gars du Nord, il n'en a ni les traits, ni la carnation. Varagwin lui découpe les brais pour mettre à jour les chairs délabrées de ses jambes. À voir sa tête, ça n'a pas l'air bien parti. « Apportez-moi de l'eau claire » s'éraille-t-il. Tout le monde s'agite autour de nous sur le pont. Miar s'efforce de tenir les chevaux à distance, mais ceux-ci deviennent de plus en plus nerveux. Alors il s'énerve, il gueule qu'il faut déplacer le blessé sous la tente dortoir, à la poupe, que ça ne sert à rien de laver ses blessures si c'est pour le laisser vautrer dans la paille et le crottin. Les gars s'empressent de soulever à nouveau le pantin sanguinolent et font ce que dit Miar. Ils le déposent sur la première paillasse disponible. Quelqu'un crie mon nom. « Fintan ! Fintan Karatin !» Je m'agenouille auprès du blessé et je fais signe à Varagwin de tenir les autres à distance. Avec mille précautions, je cisaille ce qui reste des brais pour mettre à nu la jambe gauche. Une belle fracture ouverte. L'os saille hors la chair au-dessus du genou. « Tu dois guérir cet homme, il a les faveurs du fleuve !» s'exalte quelqu'un derrière moi. « Il aurait pu s'y noyer 10 fois, mais les Nyx ont choisi de le préserver !» Je pousse un soupir excédé en dépouillant la cuisse droite des ruines de tissu qui s'y encroûtent. À première vue, pas de fracture nette, mais elle est enflée, jaunâtre, balafrée d'une entaille particulièrement profonde dont les lèvres ont pris une coloration grisâtre de mauvais aloi. Une odeur charognasse vous piquette le nez, ne laissant aucun doute sur l'état de santé du gaillard. Il faut l'amputer, oui, je rétorque sans relever le front. Il est resté trop longtemps dans l'eau, la chair à vif. La pourriture a commencé son œuvre. Il nous faut Perdouane. Perdouane Namarantri n'est pas vraiment chirurgien. C'est un chevalier, une robuste canaille de cadet de famille, entêté, mystique et paillard. À force de courir les batailles et de tutoyer la mort, le sort l'a mené plusieurs fois à effectuer des amputations de fortune pour sauver un compagnon. La soldatesque a fini par s'accoutumer à faire appel à lui lorsqu'il faut opérer, si bien que le surnom de Barbier Namarantri lui est resté. Ils vont chercher sur l'autre gabarre. Le temps qu'il arrive, Varagwin s'interpose entre moi et le blessé. Il ne veut pas qu'on le raccourcisse. « Laisse-lui une chance, dit-il. Nous avons des herbes à bord !» Avant que je puisse répondre, la puissante voix du barbier tonitrue derrière mon épaule.
« Ôte-toi de mon chemin, batelier. Tu ne lui rends pas service à jouer le dog devant ces guiboles. Dans l'état où elles sont, elles ne lui serviront plus à rien. Si jamais il survit, cet homme ne remarchera jamais. »
Mais Varagwin ne veut rien savoir. Il raconte à qui veut l'entendre qu'avec des prières et des soins appropriés, on a déjà vu la gangrène battre en retraite. Qu'il connaît un homme qui a eu les deux quilles brisées sous son cheval et qui pourtant remarche. Et même, il court comme au premier jour. Perdouane réplique par les noms de tous ceux qu'il a vus crever de fièvre à cause de blessures moindres. La voix de notre capitaine met fin au débat, tranchante. « Réfrénez votre hâte à amputer, maître Perdouane. Trop souvent, ce genre de remède est fatal avant le mal. Laissez-le d'abord lutter. D'abord les herbes. » Venant d'un homme tel que le capitaine, ce n'est pas un avis, c'est une interdiction pure et simple. Il vient d'émerger de sa loge privée, sous le gaillard d'arrière, la mise impeccable, un peu raide sous son lourd mantel de laine bleu turquin. Le visage du seigneur Kalendun Rana, comte palatin et père de Narakin, est un masque austère, hanté par des yeux d'étain. Il a le front droit, les maxillaires larges mais le menton élégant, des pommettes robustes et saillantes. Sa longue chame anthracite, la tresse rituelle des chevaliers du vieux duché, lui repose sur l'épaule telle une couleuvre affectueuse. Je lis dans les muscles de sa mâchoire cette tension caractéristique qui chez lui signifie que toute discussion est vaine. Kalendun Rana chasse tout le monde du dortoir, à l'exception de Perdouane, de Varagwin et de moi-même. Son frère, Denandra Rana, nous rejoint juste après depuis la seconde gabarre et nous fermons le rabat de toile pour nous isoler du dehors. Nous évoquons ensemble les soins à apporter aux blessés. Sur les manipulations élémentaires, nous sommes tous d'accord. Exciser les chairs corrompues, réduire la fracture, traiter avec des onguents et poser un emplâtre. Mais aucun de nous ne croit que ce sera suffisant pour éliminer la gangrène et l'empêcher de reprendre le dessus. Nous possédons tous quelques bribes de savoir médicinal que nous nous efforçons tant bien que mal d'harmoniser, dans l'espoir d'offrir aux naufragés quelques chances de survie. Varagwin croit d'abord aux litanies, à l'eau bénite et à l'intervention des forces mystiques pour triompher de la fièvre. Plus terre à terre est le capitaine qui mise davantage sur les onguents et les remèdes. Il a emporté avec lui une pharmacopée élémentaire. Nous nous mettons à palabrer et débattre âprement de son contenu sans parvenir à nous accorder sur les herbes qui conviennent au cas présent. En désespoir de cause, Perdouane propose de nourrir le blessé au lait de femme pour lui rendre des forces, comme il l'a vu faire sur divers champs de bataille. C'est historique ça. « Oubliez cette idée, maître Perdouane, le rabroue le capitaine. Pas question de redescendre jusqu'au lac pour quérir une nourrice. Je ne peux galvauder une seule des semaines qui nous séparent de l'hiver. »« Oubliez le monde que vous avez laissé derrière vous, » traduis-je mentalement. « Nous sommes seuls à des lieux à la ronde. » Nous restons un moment songeurs. Sans doute, nous avons en tête les mêmes questions, qui risquent fort de rester sans réponse si l'homme du fleuve trépasse avant de parler. Perdouane et moi-même, nous prions les autres de sortir et nous nous mettons à l'ouvrage. Au dehors, juste devant l'entrée de la tente, je rallume le petit brasero de bord pour y infuser une décoction de feuilles d'effet. Je la verse dans la gorge du blessé, histoire de le plonger plus profondément dans sa torpeur et de le mettre autant que possible hors d'atteinte de la douleur. Puis, je passe au feu la pointe de mon couteau et je commence à exciser les chairs corrompues de son entaille à la cuisse, sans trop y croire. L'odeur nous saute à la gorge, j'en ai la nausée. Par moments, l'homme gémit faiblement. Ses lèvres remuent un peu, mais il garde les yeux clos et le souffle laborieux.
Le vin bouillonne sur le brasero. Nous en répandons en abondance sur ses blessures pour prévenir la suppuration. Il porte au front une longue entaille qui a cessé de saigner depuis quelque temps. Elle ne présente aucun signe d'infection. Nous nous contentons de la nettoyer en profondeur et de la recouvrir avec un baume purificateur de cyste et de lavande. Puis nous retroussons nos manches pour affronter le pénible travail qui nous attend sur la jambe gauche. Sur ce terrain, le barbier d'Amarantri se montre bien plus déterminé que moi. Il a très peu d'outils à sa disposition pour opérer. Son couteau courbe surgit dans sa main, pointe vers le ciel. Une lame deux fois plus imposante que mon petit coutel a taillé les plumes. Il se met à en vérifier le fil, l'air étrangement détaché, avant de la passer à son tour, avec une lenteur toute religieuse, dans les flammes du brasero. Ce faisant, il marmonne une ancienne litanie pour étouffer les esprits venimeux tapis sournoisement sur le métal. Ses yeux brillent d'une lueur mystique. Il a l'air de voguer lui-même dans un état second, proche de la transe extatique. Il me somme de maintenir fermement le blessé, et sans attendre, il se met à le charcuter pour dégager la partie saillante du fémur et enlever les esquidos. L'homme du fleuve ne se débat pas. Il se contente de pousser de longs soupirs fébriles ou des hoquets étouffés, à chaque fois que le fer de Perdouane lui trifouille les chairs. Moi, pendant ce temps, je me contente de tirer sur sa cheville pour maintenir la jambe en extension. Au bout d'un moment, le barbier remet le genou en place, provoquant chez son patient une sorte de soubresaut convulsif et un flot d'humeur carmine. Mon assurance s'en va à vaut le sang. Le bois sous nos pieds s'engorge à l'envi. Je ne suis pas loin de tourner de l'œil. En fait, quelques instants de plus y suffiraient parfaitement.
« Va me chercher du crâne cheval !»
me souffle mon compagnon. Je m'exécute sur le champ, trop heureux de quitter un moment l'atmosphère poisseuse de la tente. En sortant, je remarque la cautère qui rougit dans le brasero. Ça m'apprend que le barbier n'a pas complètement écarté l'idée de l'amputation, si nos soins ne tournent pas comme il l'entend. Un moment plus tard, je reviens avec quelques beaux fils de crin doré, offrande de la jument du capitaine pour le salut des moribonds. Perdouane s'en empare aussitôt pour recoudre les blessures de notre homme avec une haleine. Suite à quoi, il tartine les chairs d'une bonne platée d'onguents et de cataplasmes cicatrisants, préparés par le capitaine Rana lui-même.
Maintenant de l'œuf, de la farine, du drap.
Nous avons embarqué avec nous quelques poules, leur vilain croupion bagnote sous le gaillard d'avant de la seconde gabarre, en compagnie de nos sacs de froment. Je m'en vais y faire un tour. Je rapporte au barbier tout ce qu'il demande. Il s'en sert pour maçonner un emplâtre sur la cuisse fracturée, ménageant un ajour juste au-dessus de la rotule pour laisser respirer la plaie laissée par le saillant et suivre son évolution dans les jours prochains. Pour être sûr de son fait, il bâtit son ouvrage autour d'une bonne attelle de bois. Il lie l'autre jambe à un tuteur plus sommaire par mesure de précaution. À la fin de la matinée, il a du sang jusque dans la barbe, mais il est parvenu à redonner aux membres du blessé une allure à peu près humaine et s'est assuré de les immobiliser dans la position voulue. Je dois reconnaître la valeur de son ouvrage, mais ça ne changera probablement rien à l'affaire. Si vilainement rompu, rares sont les os qui se ressoudent correctement. Nous tombons d'accord sur le fait qu'il faut à notre homme encore de la feuille des fées, toujours plus de feuilles des fées, et puis des prières d'un brahmine et des faveurs des astres. Hormis par la grâce de ces dernières, je vois mal comment il vivra assez longtemps pour nous raconter son histoire. C'est déjà grande merveille qu'il ait pu tenir jusque-là, tremblant de fièvre, vidé de son fluide dans l'eau glaciale du fleuve. Sitôt notre labeur terminé, le capitaine donne l'ordre d'appareiller. Le vent, ce sacré boutorin, ne se fait pas prier pour engrosser notre voile. La seconde gabarre prend notre sillage et nous retrouvons le cours de notre remontée vers l'amont. La main encore un peu tremblante, je prends ma plume pour inscrire quelques mots dans le grimoire de bord, selon le vœu de la duchesse. Attiré sur le vélin, le fil de l'encre, la tension s'en va peu à peu. Mes doigts retrouvent leur assurance. Les questions, elles, demeurent. Fourbe est le vieux fleuve, et folle qui prétend lire le cours de ses eaux. Allez savoir quelle surprise il nous couve encore. Une multitude d'érables et de chênes, des horizons de mélèzes, d'infinies perspectives d'épinettes et de bouleaux, tout échevelées de brume. La grande forêt nordique qui emplit la vue dans toutes les directions, de toute sa platitude, et expire en silence des éons de solitude. Viennent trier la noire.